Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le pape François attendu ce dimanche en Sardaigne, une île confrontée à de nombreuses difficultés. La population espère que sa visite marquera un tournant positif. Le pape François qui a par ailleurs annoncé son premier remaniement au sein de la Curie après la nomination à la fin de l'été du futur secrétaire d'État, Mgr Pietro Parolin. Tous les détails dès le début de ce magazine. Dans cette émission, vous entendrez également le cardinal Angelo Scola, archevêque de Milan. Et ne manquez pas dans la deuxième partie nos rendez-vous hebdomadaires avec les livres pour Dieu et le commentaire de l'Évangile. Un peu plus de 6 mois après son élection, le pape François procède à un remaniement partiel au sommet de la Curie romaine, tout en confirmant de nombreux responsables de dicastère. Une série de mesures a été publiée ce samedi matin. La liste est longue, mais certains choix ne passent pas inaperçus. Jean-Baptiste Cocagne.
Première annonce de taille, le secrétariat général du synode des évêques change de main. Monseigneur Nicolas Eterovitch, le prélat croate qui le dirigeait depuis plusieurs années, part pour l'Allemagne en qualité de nonce apostolique. Le pape François a décidé de confier la direction de cette structure à laquelle il attache beaucoup d'importance et qu'il a dit vouloir modifier, un diplomate italien, Monseigneur Baldisseri, qui était actuellement secrétaire de la Congrégation pour les évêques, aux côtés du cardinal Marc Ouellet. Autre changement au sommet, le cardinal et canoniste génois, Mauro Piacenza, quitte sa charge de préfet de la Congrégation pour le clergé, le ministère du pape chargé des prêtres du monde entier. Il est nommé grand pénitencier, en remplacement du cardinal Montero de Castro, démissionnaire pour atteinte de la limite d'âge, la pénitencerie apostolique étant l'un des 3 tribunaux de l'Église catholique romaine. Le nouveau préfet de la Congrégation pour le clergé est lui aussi un diplomate italien, Monseigneur Beniamino Stella, actuellement président de l'Académie pontificale ecclésiastique. Et c'est également un diplomate italien, Monseigneur Giampiero Gloder, actuellement en poste à la secrétairerie d'État, qui prendra sa succession à la tête de l'Académie. En revanche, le pape François confirme les préfets de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Monseigneur Müller, et de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, le cardinal Fernando Filoni, ainsi que la plupart des responsables de ces 2 importants dicastères.
2 autres nouveautés à signaler, Mgr Joseph Di Noia, qui était jusqu'ici président de la commission pontificale Ecclesia Dei, est nommé secrétaire adjoint de la Congrégation pour la doctrine de la foi, tandis qu'un évêque mexicain, Mgr Patron, est nommé secrétaire pour les séminaires au sein de la Congrégation pour le clergé. Enfin, en ce qui concerne l'administration du patrimoine du siège apostolique, le pape François a nommé délégué de la section ordinaire, Mgr Mauro Rivella, du clergé de Turin. Ces annonces interviennent alors que début octobre, le pape François doit réunir autour de lui 8 cardinaux conseillers avec lesquels il va réfléchir à des réformes au sein de l'Église. Le Saint-Père voudrait ensuite confier l'examen de ces questions à une assemblée d'évêques. Dans sa longue interview à la Civiltà Cattolica, à la revue des Jésuites italiens publiée cette semaine, le pape François affirme qu'il faut du temps pour jeter les bases d'un changement véritable et efficace. Ce temps est celui du discernement qui se réalise toujours en présence du Seigneur, en regardant les signes. La Sardaigne est en fête. 350 000 personnes sont attendues ce dimanche à Cagliari à l'occasion du 2e déplacement du pape François en Italie. Après sa visite éclair début juillet sur l'île de Lampedusa, le pontife argentin se rend à Cagliari pour visiter le sanctuaire de Notre-Dame de Bonaria, qui est à l'origine en quelque sorte de la fondation de sa ville natale, Buenos Aires, une fraternité historique, un des nombreux liens qui unissent l'Europe au Nouveau Monde. Ce sont en effet des marins sardes au XVIe siècle qui ont donné son nom à la capitale de l'Argentine en s'inspirant de leur sainte patronne, Bonaria. Buenos Aires. En l'espace de 10 heures, le pape François célébrera une grande messe et multipliera les rencontres à Cagliari avec le monde du travail, les malades, les nombreux pauvres pris en charge par la Caritas diocésaine, les détenus confrontés à la surpopulation carcérale, le monde de la culture et les jeunes. Le maire de la ville de Buenos Aires sera également présent. C'est une fête de la foi et de l'espérance qui se profile. Le Saint-Père veut réconforter et encourager une population confrontée à la crise de l'emploi, aux difficultés des familles, à l'exode des jeunes et à la léthargie politique. L'archevêque de Cagliari, Mgr Miglio, espère que le message sera entendu par ceux qui ont des responsabilités au niveau national. Dans 2 semaines, je vous le rappelle, un nouveau déplacement italien pour le pape François. Il se rendra à Assise, la ville du Poverello, dont il se sent très proche. Il a effectué un seul voyage à l'étranger, au Brésil, pour les JMJ. Le pape François a souligné ce samedi l'importance de la communication pour l'Église, tout en précisant que la question fondamentale n'était pas tant l'acquisition de technologies sophistiquées, mais la capacité d'utiliser les nouveaux médias pour porter Jésus au monde. Le Saint-Père recevait en audience les membres du Conseil pontifical pour les communications sociales qui achevaient leur assemblée plénière de 3 jours au Vatican. Xavier Sartre.
Pour le pape François, l'Église doit savoir dialoguer avec les hommes et les femmes de son temps pour comprendre leurs attentes, d'autant que certains sont déçus du christianisme et de sa manière de communiquer la foi. Or, aujourd'hui, les technologies sont nécessaires pour une présence actuelle et valide de l'Église dans le monde. L'Église doit donc entrer avec discernement dans les espaces créés par les nouvelles technologies et dans les réseaux sociaux comme une présence qui écoute, dialogue et encourage. Cependant, le défi, selon lui, n'est pas d'ordre technologique. Il s'agit principalement de savoir si nous sommes capables, y compris dans les nouveaux médias, de conduire à la rencontre avec le Christ et de faire découvrir la beauté de la foi. Pour le souverain pontife, l'humanité a besoin d'une Église qui sache enflammer les cœurs. Il est donc impératif de se demander si notre présence et nos initiatives dans ce domaine savent répondre à cette exigence. Pour transmettre ce trésor précieux dans l'univers numérique, le pape François insiste sur la formation qualifiée de prêtres religieux, religieuses et laïcs, qui sachent entrer dans le brouillard de l'indifférence sans se perdre, écouter les illusions de nombreuses personnes sans se laisser séduire, accueillir les déceptions sans tomber dans l'amertume, toucher la désintégration de l'autre sans se laisser défaire ou se décomposer dans leur identité.
Plus de 30 évêques et quelques 3000 fidèles venus de tous les territoires de l'ex-Yougoslavie ont assisté ce samedi en Serbie, à la messe solennelle célébrée par le cardinal Angelo Scola, envoyé spécial du pape aux célébrations du 1700e anniversaire de l'édit de Milan. Cet édit, promulgué par l'empereur Constantin, a instauré la liberté religieuse dans l'Empire romain et autorisé la pratique du christianisme. L'Eucharistie s'est déroulée à Niche, ville natale de l'empereur Constantin. Des délégations orthodoxes, musulmanes et juives, ainsi que les autorités civiles, étaient présentes, dont le président serbe Tomislav Nikolic. C'est un vibrant appel à la réconciliation et à la paix que l'Église catholique a voulu lancer dans cette région qui porte encore les blessures des guerres des années 90. Appelle également en faveur de la liberté religieuse qui continue d'être violée dans plusieurs pays. On écoute le cardinal Scola, archevêque de Milan et émissaire spécial du pape François, interrogé par notre envoyé sur place Stefano Leschinski.
J'ai vu ici un signe d'espérance très important pour toute l'Europe. C'est la première fois depuis les guerres de la fin du siècle dernier que tous les évêques se sont réunis ici avec le peuple, surtout avec les jeunes qui ont fait un long travail pour donner un signe de véritable réconciliation et de paix. Et je pense que ça, c'est une grande chose, étant donné la situation vraiment historiquement très, très compliqué de toutes ces terres. Et ça signifie que l'Église catholique est fortement engagée dans un procès de paix aussi dans cette société plurielle. Et deuxièmement, j'ai eu la possibilité de rencontrer soit le patriarche Irénée, soit le président de la République. Et j'ai vu, d'une part, de la part de nos frères orthodoxes, une conviction bien enracinée de promouvoir avec une nouvelle énergie le travail œcuménique. Nous avons vraiment besoin de ça en Europe, dans une société post-sécularisée comme celle dans laquelle nous vivons, dans une société plurielle. Il est très important que l'unité des chrétiens se montre comme Jésus nous a indiqué. Ma rencontre avec le président de la République me confirme qu'aussi de la part de la Serbie, il y a une nouvelle vision des choses qui est une vision pacifique et on s'aperçoit que les citoyens ici veulent vraiment la paix et cette célébration, le fait de mettre la croix du Christ au centre, c'est-à-dire le lieu de l'offrande que le Dieu qui s'est fait homme a voulu faire de sa vie, et qui nous indique que l'amour est l'unique route possible pour la vie de l'homme d'aujourd'hui, est un signe que toute l'Europe, surtout nos pays d'Occident qui sont plutôt fatigués, doit prendre très au sérieux. La vie nous est donnée afin que nous la donnions à notre foi, et si nous ne la donnons pas, c'est le temps qui va nous la voler.
C'était l'archevêque de Milan, le cardinal Angelo Scola. En France, Avignon accueille ce dimanche une fête diocésaine de la famille à laquelle sont attendues plus de 600 personnes. C'est une première. Pour l'occasion, les reliques des époux Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse de Lisieux, béatifiée en 2008, sont portées en pèlerinage jusqu'au 3 octobre à travers le diocèse. Au programme de cette journée, débat, animation, deux grandes conférences et la messe solennelle à 15h. Pour l'archevêque d'Avignon, l'objectif est de fêter les familles comme des petites églises au cœur de l'église et de valoriser la beauté de la vie de couple alors que beaucoup sont fragilisés par les courants de pensée dominants. L'organisation a été confiée aux équipes Notre-Dame. Pour le diocèse d'Avignon, la fête s'inscrit aussi en lien avec l'actualité, marquée notamment par l'entrée en vigueur de la loi Taubira sur le mariage pour tous. Les conférenciers donneront quelques points de repère et matière à réflexion. Deuxième partie de ce magazine, Catherine Aubin nous propose un entretien avec Marianne Vanier, qui vient de publier une anthologie de Nicolas de Cuse, auteur peu connu qui assurait pourtant le passage du Moyen-Âge à la Renaissance. Premier des humanistes, théologien incontournable, esprit universel, qui s'intéresse aussi bien au droit qu'aux mathématiques, à l'astronomie, à la philosophie ou à l'action sociale. C'est le livre pour Dieu de cette semaine. Marianne Vanier, pourquoi Nicolas de Cuse est-il si méconnu ?
Jusqu'ici, on n'avait pas accès à ces ouvrages. Et il est vrai que ces ouvrages sont quand même un peu spéculatifs, difficiles. Nicolas de Cuse est vraiment un homme de la Renaissance. Il est né en 1401 et il a vécu jusqu'en 1464. Et c'est quelqu'un qui s'intéressait à tous les domaines. Il a commencé par être juriste. Ensuite, il a fait des études de théologie, de philosophie. Il a vécu un peu la Renaissance italienne. C'est un homme d'église qui a été cardinal, évêque de Brixen également, qui a eu un rôle important et qui a réfléchi sur le rapport du pape et du concile, qui a été un contemplatif, quelqu'un qui exprime bien la Renaissance.
Marianne Vanier, vous venez de nous citer tout ce qu'il a fait, Nicolas de Cuse, mais alors comment peut-on résumer le but de son activité? Quelle est l'intention qui fonde sa pensée?
C'est un contemplatif dans l'action. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a eu une forte expérience de Dieu, qui au départ était plus juriste, mais qui en étant envoyé à Constantinople, au retour, a eu une expérience de Dieu très forte qui l'a marqué. Et à partir de là, toute son œuvre s'est unifiée. Il y a un petit ouvrage sur la filiation de Dieu qui montre comment se réalise cette création nouvelle, comment se réalise la filiation divine. Et en même temps, il envisage la vision de Dieu, mais de manière très originale. Lui écrit un ouvrage sur la question à partir d'une icône qui regarde chacun d'entre nous et dit « Où que l'on soit, le regard de l'icône nous suit ». À partir de là, il voit une analogie avec la concélébration eucharistique en disant chacun voit l'Eucharistie d'une certaine manière et reçoit la présence du Christ d'une certaine manière et chaque chrétien reçoit quelque chose à sa manière. Donc là, c'est vraiment cette orientation vraiment profondément ancrée en Dieu qui est le cœur de son œuvre. Alors bien sûr, il répond aux questions de son temps, il va étudier le Coran, il va voir l'unité des religions pour dire il faudrait une religion universelle. Et en même temps, ce qu'il essaye de voir, c'est la paix de la foi. Donc vraiment, tout est ancré en Dieu, mais de manière très accessible pour son époque et très parlante pour nous. Il y a un petit ouvrage qui est intéressant, qui est le jeu de la boule, qui est actuellement pratiqué dans les écoles allemandes. C'est un ensemble de cercles concentriques avec une boule qui est évidée. Et bien sûr, si on lance cette boule, on espère immédiatement aller au centre de ces cercles concentriques. Mais comme la boule est évidée, elle n'y va pas. Or, il dit, c'est la même chose pour nous, pour aller au Christ. On veut y aller, mais en même temps, on a nos propres limites et on n'arrive pas à y aller directement. Mais c'est très simple, sa manière de présenter les choses, très accessible, mais en même temps très profond.
Il y a une autre parabole aussi qui est très très accessible, c'est celle de la parabole du miroir. Vous pouvez nous en parler ?
Le miroir par excellence, c'est le Christ qui est égal au Père. Et il dit, chacun de nous est un miroir, mais un miroir plus ou moins déformé. Et il faut que ce miroir, c'est-à-dire cette image de Dieu en nous, devienne ressemblance. Donc il faut que les différents miroirs arrivent à se reformer pour aller vers ce miroir unique qu'est le Christ.
Livre pour Dieu, une rubrique hebdomadaire réalisée par sœur Catherine Bain. Et c'est l'heure de retrouver le père Pascal Montavi pour le commentaire de l'évangile de ce dimanche 22 septembre, le 35e du temps ordinaire. C'est l'évangile selon saint Luc, chapitre 16, versets 1 à 13. Et c'est la parabole du gérant qui gaspille les biens de son maître, un gérant trompeur mais habile. On ne peut pas servir à la fois Dieu et l'argent.
L'évangile de ce jour nous propose certainement une des paraboles les plus difficiles à comprendre. Un homme riche découvre que son gérant gaspille ses biens. Il choisit de le renvoyer. Le gérant, ne souhaitant ni travailler ni mendier, décide de diminuer à son profit les dettes des débiteurs de son maître. Ce qui est surprenant est la manière dont Jésus loue l'habileté de ce gérant trompeur. Comment est-il possible qu'un homme malhonnête, et qui plus est paresseux puisqu'il refuse de travailler, soit présenté comme un modèle à suivre. Cette parabole se comprend mieux si l'on pense que l'auditoire de Jésus est essentiellement constitué de personnes pouvant se reconnaître dans ce gérant malhonnête. Il leur est alors clairement demandé « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. » En d'autres termes, la même habileté qui est utilisée pour amasser des richesses dans ce monde doit aussi être mise à profit pour amasser des richesses qui ne se corrompent pas avec le temps. C'est donc un appel à acquérir une couronne de gloire qui ne se flétrit pas. De même, saint Paul considère sa mission comme une course. Il dira « Tout athlète se prive de tout, mais eux, c'est pour obtenir une couronne périssable, nous, une impérissable ». Cet enseignement n'est pas anodin. Parfois, nous nous résignons à une certaine médiocrité, inefficacité. Et nous nous disons que ce qui importe est d'avoir essayé, que le véritable fruit est celui qui est vu par Dieu seul. Ce n'est pas faux, et le missionnaire doit savoir se préparer à l'échec s'il veut durer dans le temps. Mais mettons-nous bien tout en œuvre pour réussir notre mission de disciple. Sommes-nous inventifs, créatifs pour répandre la bonne nouvelle ? L'évangile de ce jour vient nous rappeler l'importance de mettre toutes nos capacités au service du royaume. Ensuite, l'évangile continue par des maximes que Jésus adresse aux disciples. Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera ? Ces paroles de Jésus continuent bien l'enseignement précédent. L'accent au début était mis sur le fait d'acquérir un trésor dans le ciel. Il se déplace maintenant sur comment acquérir ce trésor. La réponse est simple, par une bonne gestion des biens créés. Cette gestion de la création doit être faite en vue des biens célestes. Dieu a confié la terre aux hommes pour qu'ils lui donnent de porter du fruit, tout en respectant les lois qui la régissent. L'erreur de l'homme contemporain est de croire qu'il possède la terre comme s'il en était l'ultime propriétaire. Tel n'est pas le cas. Tout appartient à Dieu, et ce que nous possédons, nous le lui devons. Sans lui, rien n'est à nous. Que conclure d'un tel évangile ? Le Seigneur nous a laissés sur cette terre avec une mission à accomplir et des biens à gérer. Il est important de nous rappeler qu'au-dessus de nous, il y a Dieu à qui tout appartient et devant qui nous nous retrouverons. Cet évangile rappelle à l'homme sa condition humble de serviteur, un serviteur appelé à user de tous ses talents pour le bien du royaume.
Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Mais je vous invite à nous retrouver également sur internet www.radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Bon dimanche à tous.